Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le secrétaire d'État américain espère que le Rwanda va user de son influence afin d'encourager le M23 à se retirer. Anthony Blinken l'a dit hier dans une conférence de presse à la clôture du sommet États-Unis-Afrique à Washington. Une dizaine de zones de santé dans la province du Sud Kivu touchées par l'épidémie de choléra. Les zones les plus touchées sont celles situées sur le littoral des lacs Kivu et Tanganyika. Toutefois, la division provinciale de la santé annonce que le traitement est gratuit. Enfin, nous recevons dans cette édition du journal Marie-Émilie Ekombolo, congolaise de l'étranger basée à Londres et entrepreneur dans le secteur de l'agriculture en RDC. Elle a participé au sommet États-Unis-Afrique en tant que membre de la diaspora. Elle donne sa lecture sur ces sommets. Voilà tout pour le sommet. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous espérons que le Rwanda va user de son influence afin d'encourager le M23 à se retirer. Ce sont les propos du secrétaire d'État américain Anthony Blinken à la conférence de presse qui a marqué la clôture du sommet États-Unis-Afrique ce jeudi 15 décembre à Washington. Le détail avec Cynthia Bachizina Bizana, envoyée spéciale de Radio Kapi à Washington.
Le secrétaire d'État américain a commencé par préciser qu'il s'était entretenu par téléphone avec le président Kagame avant le sommet et avec le président Tshisekedi ici à Washington, et la position américaine est claire. Les États-Unis restent attachés aux résolutions du processus de Nairobi et de la feuille de route du mini-sommet de Luanda. Il faut donc que le M23 se retire des zones occupées, et de ce côté-là, nos yeux sont tournés vers le Rwanda pour qu'il use de son influence afin d'encourager cela, à confier en Anthony Blinken. Mais en même temps, toutes les forces militaires non gouvernementales qui se trouvent dans l'est de la RDC, telles que les FDLR, doivent se retirer aussi. Et nous espérons également que toutes les parties impliquées useront de leur influence pour que cela arrive. L'implémentation de toutes ces résolutions reste notre plus grand défi actuellement, a souligné le numéro 1 du département d'État américain. Nous sommes convaincus que les solutions à ce problème doivent se discuter au niveau africain avec des acteurs clés, dont notamment l'Union africaine et la Communauté des États d'Afrique de l'Est, et assez à rappeler Anthony Blinken. Depuis Washington, Cynthia Bachizi, Radio Kapi.
Pour sa part, toujours hier, le président Tshisekedi s'est entretenu avec ses homologues angolais, burundais et ougandais avant de quitter la capitale américaine. Ces présidents lui ont fait la restitution des conclusions de la réunion sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, tenue la veille entre les présidents rwandais, kenyans, tanzaniens, burundais et ougandais. Le président Félix-Antoine Tshisekedi n'avait pas pris part à cette réunion car il était reçu au même moment par le président Joe Biden à la Maison Blanche. Pendant ce temps, en plus bref sur terrain au nord Kivu, les rebelles du M23 gardent toujours leur position dans la zone qu'ils occupent en territoire de Rutshuru et de Nyiragongo. Cette mise au point est faite ce vendredi par différents acteurs civils se trouvant dans le Rutshuru. Ces sources démentent l'information qui circule depuis hier jeudi à travers les réseaux sociaux dans la région. Les informations selon lesquelles les rebelles auraient retiré certains de leurs combattants des positions occupées, dont les blessés qui étaient à l'hôpital général de Rutshuru. Les sources de cette structure hospitalière parlent plutôt d'un mouvement de quelques blessés pour des soins ambulatoires, ce qui aurait donné une fausse alerte. Nos sources confirment cependant un mouvement de renforcement des positions des rebelles qui se poursuivrait encore au niveau des divers axes de la ligne de front. C'est notamment à Kibumba, territoire de Nyiragongo, Bwito et Biza, territoire de Rutshuru. Toujours au nord Kivu, une trentaine de journalistes ont été formés au mandat et au rôle du HCR dans la crise humanitaire que traverse actuellement l'Est de la République démocratique du Congo. Dans une retraite de 2 jours qui se clôture ce vendredi à Goma, l'objectif, selon le chef de la sous-délégation du HCR à Goma, est d'amener les participants à apporter leur contribution dans le plaidoyer en faveur d'une réponse efficace à cette crise humanitaire. Bernard Nyangi.
Le numéro 1 du HCR en province déplore le fait qu'avec plus de 5 millions de déplacés internes, dont 3,2 millions au nord et sud Kivu, plus de 5 000 réfugiés, dont plus de 300 000 dans les deux provinces, la crise humanitaire de la RDC soit l'une des moins financées dans le monde. Abdoul Bari.
Paradoxalement, la crise humanitaire en RDC est l'une des moins financées au monde. L'une des raisons réside dans le fait que la couverture médiatique ne donne pas toujours de détails sur la réponse humanitaire ainsi que les contraintes auxquelles sont confrontées les communautés affectées et les humanitaires.
Pour un de ces journalistes venus du Nord et Sud Kivu, c'était une occasion pour renforcer leur implication dans la réponse à cette crise humanitaire. Moustapha Moulonda, journaliste de Beni.
Nous avions compris les rôles que nous, journalistes, nous pouvons jouer de parler de la vie difficile de ces déplacés pour permettre aux acteurs humanitaires de leur venir en aide.
Selon le HCR, la résurgence du M23 a exacerbé la crise entraînée par plus de 160 groupes armés depuis des décennies en RDC. L'agence est dit travailler actuellement sur le projet d'améliorer des conditions de protection des plus de 177 000 personnes déplacées se trouvant à Kanyaruchinya, près de la ville de Goma.
Et puis en Ituri, la situation humanitaire est préoccupante dans la chefferie de Boga et ses environs, où sont hébergés de nombreux déplacés de guerre qui ont fui les exactions des rebelles des ADF dans cette région. Selon de sources concordantes, ces personnes n'ont pas accès aux champs occupés par ces groupes armés. Même les transactions commerciales sont difficiles à cause de l'insécurité. La population demande au gouvernement de renforcer l'effectif des militaires et d'intensifier les opérations militaires contre cette force négative. Isaac Remoyope.
Une forte concentration de la population composée essentiellement des déplacés de guerre s'observe depuis un mois dans la chefferie de Baïma Boga. Ces personnes ont fui les exactions des ADF en novembre dernier dans les chefferies voisines de Baïma Mitego et de Banyari Tchabi. Cependant, ces déplacés, autant que les autochtones, vivent dans des conditions difficiles et n'ont pas de vivre à cause de l'inaccessibilité à leurs champs qui sont envahis par les ADF. Selon des sources locales, au moins 10 personnes sont déjà tuées et d'autres prises en otage depuis le mois de novembre dernier. Dans cette entité. Parmi les victimes, un jeune qui s'est rendu la semaine dernière au marché de Kainama, à 27 km de Boga, et qui a été abattu par ces rebelles. La population qui vit dans une psychose ne veut plus se hasarder en brousse, ce qui rend la vie intenable pour de nombreux sinistrés. Les leaders communautaires demandent aux forces conjointes de démanteler les ADF et permettre à la population d'évacuer librement ses occupations. Des sources de sécurité indiquent que d'autres militaires ougandais sont arrivés mercredi à Boga Centre pour intensifier et les opérations contre cette force négative. Bounia, Isakare Moyope, Radio Okapi.
Et puis le village Bita di Luasa, situé dans le territoire de Kenge, dans la province du Kwango, est assiégé pour le moment par plus de 50 hommes armés non autrement identifiés. Le cadre de concertation provinciale de la société civile qui alerte indique que la présence des personnes qui sont dissimulées dans le village crée la panique totale dans les chefs de la population. Lucien Lufutu, son président, en appelle à l'intervention des autorités attitrées pour sécuriser la population. Du côté des autorités territoriales, on leur assure que les services de sécurité sont en alerte pour suivre de près cette situation. Le tout avec Irène Beaumont.
Selon les sources de la société civile du Kwango, cela fait déjà plus de 6 jours que la présence de ces hommes armés est remarquable à travers tous les villages Bita du Luasa situés dans le territoire de Kenge, à près de 60 kilomètres de la mission de Bukangalonzo en allant vers Fatundu Okwilu. Toutes les voies d'entrée et de sortie de cette localité sont bloquées par ces personnes non autrement identifiées et dont l'agenda reste jusque-là caché. Situation qui crée déjà la psychose auprès des habitants qui craignent pour leur sécurité, comme le dit Lucien Lufutu, président de cette société civile.
Une cinquantaine d'assaillants, ils ont assiégé le village. Depuis lors, il n'y a pas d'entrée ni sortie. Avec leurs armes, ils se sont installés. Nous lançons ces cris d'alarme pour que la sécurité joue pleinement son rôle. Veiller pour sécuriser la population de Bita di Luasa. Nous sommes dans une psychose sans précédent.
L'administrateur sortant du territoire de Kenge qui confirme cette information précise que des dispositions sont déjà prises pour sécuriser la population. Kanzundu Mbaya Placide.
Les dispositions sécuritaires sont telles que nous sommes en état d'alerte. Les services de sécurité sont sur place. Ils veillent, ils contrôlent les mouvements de la population.
En attendant, l'autorité territoriale appelle la population au calme et à la vigilance. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Autre nouvelle, au sud Kivu, une épidémie de choléra sévit depuis quelques jours dans une dizaine de zones de santé, et cela avec décès. Ce sont les zones de santé situées sur le littoral des lacs Kivu et Tanganyika qui sont le plus touchées par la maladie. La prise en charge est en cours et le traitement des cas de choléra est gratuit. Docteur Justin Bengeya, chef de bureau des informations sanitaires et communication à la division provinciale de la santé, au micro de Emmanuel Elamejiwa Kabedi.
Aujourd'hui, sur la littorale de la Tanganyika, il y a la zone de santé d'Uvira qui a aujourd'hui autour de 53 cas. Malheureusement, qui a enregistré également 3 décès la semaine dernière. La zone de santé de Ruzizi, Sangé, Kiliba. Le premier cas à Ruzizi serait venu du camp de transit des réfugiés burundais. Et là, il y a eu propagation dans la communauté. Et aujourd'hui, nous avons autour de 34 cas de choléra dans cette zone. Malheureusement également, on a perdu des malades. Si nous entrons dans les territoires de Kabare, il y a d'abord la zone de santé de Katana qui ils sont aux alentours de 50 cas de choléra. Et là, on a également perdu déjà deux malades. À part Katana, il y a Kabare Centre qui a déjà enregistré aussi 9 cas. 9 cas depuis le début de cette épidémie. Malheureusement, également un décès. Donc, vous comprenez que dans chaque zone de santé, nous sommes en train de perdre les gens. Mais également la zone de santé de Mitimuresa, dans l'aire de santé de Kavumu. Puis, ils ont notifié 14 cas les deux dernières semaines. Si on va dans les territoires de Calais, il y a Minova, la zone de santé de Minova, qui est également en épidémie. À Calais également. Calais, et ils sont en pleine épidémie, mais au moment où je vous parle. Calais est centre, oui.
Et puis, c'est hier jeudi 15 décembre que le ministre provincial de la Santé, faisant office du gouverneur intérimaire, a lancé officiellement à Kindu la campagne préventive contre la fièvre jaune sur toute l'étendue de cette province. Cette campagne de 10 jours cible plus de 2 millions de personnes de 9 mois à 60 ans. Florence Kizalunga.
Cette campagne préventive contre la fièvre jaune est lancée au maniement pendant que cette province a déjà enregistré 30 cas, dont 2 décès. Le chef de division intérimaire de la santé invite la population à se faire vacciner. Docteur Théo Katako.
Toute personne âgée de 9 mois à 60 ans est concernée par cette vaccination. Donc, c'est pour le bénéfice de la santé de la population. La province a déjà connu 30 cas avec 2 décès. Vous voyez que c'est très mortel. Le taux de létalité est très élevé quand on a 30 cas avec des décès. Que toute personne vienne se faire vacciner comme nous l'avons fait pour se protéger.
Ce message est aussi réitéré par l'autorité provinciale après la prise de sa première dose. Docteur Kibungi Mutanga.
Je suis très ravi d'avoir reçu ma dose de vaccin contre la fièvre jaune. Laquelle dose va me protéger contre la maladie qu'on appelle fièvre jaune? Je suis moi-même témoin vivant parce que je viens de recevoir ma première dose de vaccin contre fièvre jaune. Pour cet exemple, j'invite la communauté à faire comme moi.
Tous les partenaires techniques et financiers se disent déterminés à accompagner cette campagne pour sa réussite. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Autre nouvelle, les opportunités d'investir en République démocratique du Congo, les climats des affaires et les projets prioritaires au centre d'une table ronde en marge du sommet États-Unis d'Amérique-Afrique. C'était hier jeudi à Washington entre le ministre de l'Industrie Julien Paluku Kaungia et ses collègues des finances Nicolas Kazadi et du commerce extérieur Jean-Lucien Boussa et une centaine d'investisseurs américains. L'occasion pour le ministre de l'Industrie de mettre en exergue les potentialités de la RDC en matière de l'industrie de batteries électriques. Les détails avec vous, Pauline Masirika.
Parlons justement de l'industrie des batteries électriques. Le ministre Julien Paluku Kaungia a invité les hommes d'affaires américains de venir appuyer la RDC dans le grand projet d'installation d'une première usine de fabrication de précurseurs de batteries électriques dans la province du Haut-Katanga. D'après lui, la RDC reste la meilleure destination au monde pour cette industrie, et ce grâce à ce minerai stratégique dont le cobalt, le lithium et le manganèse. Julien Paluku a par ailleurs appelé le patronat américain de venir investir dans les zones économiques spéciales pour ainsi bénéficier des avantages fiscaux, parafiscaux et douaniers qu'offrent celles-ci. Il a par la même occasion plaidé pour la création d'une zone économique spéciale américaine en République démocratique du Congo. Enfin, Julien Paluku s'est saisi de l'opportunité pour saluer la signature dans la capitale américaine du mémorandum d'entente entre la RDC, la Zambie et les États-Unis d'Amérique autour du développement d'une chaîne de valeur régionale.
Et puis, célébré le 5 décembre de chaque année, la journée internationale de l'arbre a été célébrée ce jeudi 15 décembre dans la province du Tanganyika. À cette occasion, le ministre provincial de l'Environnement du Tanganyika a rappelé l'importance de l'arbre et procédé à la mise en terre de plusieurs plantules dans différents sites de la ville de Kalemie. Le point avec Paulin Munanga.
Dans son discours, le ministre provincial de l'Environnement du Tanganyika est revenu sur les multiples importances de l'arbre. C'est notamment dans la lutte contre les réchauffements climatiques. Koya Mawazo.
C'est même le gaz carbonique qui, de par son abondance dans l'atmosphère, joue un rôle plus important que tous les autres gaz dans le réchauffement de la planète Terre. Or, les arbres savent absorber ce gaz carbonique et le transformer en produits non nuisibles tels que l'oxygène.
Le thème national choisi cette année est « Planter un arbre, c'est contribuer à maintenir la RDC au statut des pays solutions ». Des jeunes plantes ont été mises en terre symboliquement à l'université de Kalemi, à l'entrée du gouvernorat, à l'assemblée provinciale et à l'école primaire Réema. Signalons que cette manifestation a été organisée par le ministère provincial de l'environnement du Tanganyika en collaboration avec le Fonds forestier national, Antenne du Tanganyika et d'autres ONG internationales. Kalemi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Tunisie, l'opposition appelle au boycott du scrutin législatif. Le président tunisien Kais Saïd, ayant depuis son coup de force de l'an dernier installé un système hyper présidentiel qui lui confère le plein pouvoir, plusieurs partis de l'opposition ne se font pas d'illusions sur l'issue du vote et appellent au boycott du scrutin. Le nouveau système proposé par le président élimine essentiellement les partis politiques et les listes électorales, ce qui signifie que les candidats seront élus à titre individuel sans affiliation déclarée.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal, c'est Marie-Émilie Ekombolo, congolaise de l'étranger basée à Londres et entrepreneur dans le secteur de l'agriculture en RDC. Elle a participé au sommet États-Unis-Afrique. En tant que membre de la diaspora, elle donne sa lecture du sommet États-Unis et ce en quoi cette rencontre entre le président Biden et les leaders africains lui sera bénéfique. Marie-Émilie Ekombolo s'entretient ici avec Cynthia Bachizi Nabizana. Suivez.
Madame Ekombolo, bonjour.
Bonjour.
Vous participez au sommet États-Unis-Afrique. Vous êtes venue spécialement de Londres. Pourquoi ?
Parce que déjà, je suis politologue, spécialiste en relations internationales. J'ai beaucoup travaillé dans le développement dans plusieurs ONG. Et ça m'a intéressé que vraiment les États-Unis maintenant veulent renforcer les relations avec les pays africains. Et je savais déjà qu'il y aurait plusieurs réunions intéressantes à côté de ces assises et j'étais vraiment intéressée à venir.
Et donc depuis que vous êtes là, aujourd'hui nous sommes au troisième jour, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez pu, comme vous le dites, prendre part à des réunions sur des thématiques intéressantes?
Oui, les premiers jours, déjà lundi, j'étais à la réunion de Première Dame et là je peux quand même rencontrer des épouses de présidents de la République en Afrique. C'était intéressant de voir ou d'entendre ce qu'elles font pour supporter le travail de leur mari. Elles sont dans plusieurs secteurs, les ONG, moi aussi je suis intéressée. La thématique c'était plus sur les enfants, les femmes violées, comment elles travaillent chacune dans leur domaine pour essayer d'aider ces femmes-là et ces filles-là à sortir de la difficulté dans laquelle elles se trouvent.
Qu'est-ce que vous espérez à l'issue de ce sommet ?
Pour moi déjà c'est important les contacts humains que je peux... Parce que je suis quelqu'un, j'ai quand même vécu la plus grande partie de ma vie ici en Europe. Et je pense qu'il est temps pour moi de rentrer en Afrique. Donc c'est déjà ça, les contacts, écouter ce que les autres font, les expériences des autres, c'est enrichissant pour moi. Et aussi, ça me donne des idées de ce que peut-être je pourrais faire au Congo. Avec ma sœur, on avait commencé une petite entreprise en agriculture. Donc je suis agripreneur. C'était intéressant pour moi. Par exemple, hier, j'étais à la Food Security, de rencontrer toutes ces personnes, les bailleurs de fonds qui sont là, juste pour aider les petits agriculteurs, surtout les femmes. Et j'étais vraiment heureuse d'avoir participé parce que c'était une opportunité pour moi de parler un peu de difficultés qu'on rencontre sur les terrains et comment eux, en tant que grands entrepreneurs ou bailleurs de fonds internationaux, comment ils peuvent aider les femmes qui essayent de faire vraiment d'émerger dans l'agriculture en Afrique.
Alors, le forum a commencé avec une rencontre des jeunes Africains, membres de la diaspora. Comment aujourd'hui vous pouvez qualifier la diaspora congolaise ?
Je pense que la diaspora congolaise, elle est très dynamique, qu'elle est très intéressée, très motivée à vouloir apporter quelque chose au pays. dans cette diaspora, il y a plusieurs entrepreneurs, il y a plusieurs personnes qui ont vraiment différents backgrounds et différentes expériences de travail. Et je suis vraiment, moi, je suis très contente que toutes ces personnes-là veuillent ou ont compris qu'il est temps maintenant que nous-mêmes, Africains, nous nous prenons en charge, que nous n'attendions plus que de l'aide de l'extérieur. J'ai travaillé pendant longtemps dans des ONG. C'était toujours, nous voulons aller aider les Africains, nous voulons les aider. Mais jusque-là, comme vous savez, vous et moi, il n'y a pas un grand changement. Juste parce qu'ils amènent un peu d'argent, ils essayent d'aider par-ci, par-là. Et ça n'apporte pas vraiment l'impact qu'on attend. Par contre, maintenant que plusieurs jeunes de la diaspora veulent vraiment s'impliquer dans les développements de l'Afrique, et chacun dans son domaine va exceller, je suis sûre. Et ça, je pense que ce sera vraiment le démarrage, quoi, du vrai développement que nous attendons de l'Afrique.
Mais d'aucuns disent aussi que la diaspora congolaise est quand même assez divisée. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon de voir? Est-ce que vous êtes d'accord avec cela?
Bon, ça c'est un point de vue, hein. Ça c'est un point de vue. Mais tout ce que je sais, c'est que la diaspora, elle est très divers. Donc il y a vraiment des gens de différents backgrounds et différentes opinions sont là. Mais ce qui nous réunit tous, c'est l'amour du pays. Pour moi, c'est ce que j'ai retenu. Nous sommes vraiment des patriotes, quelles que soient nos différentes idées. L'amour, c'est l'amour du Congo qui fait qu'on puisse vraiment tous vouloir développer quelque chose, vouloir toujours envoyer de l'argent au pays, même si des fois ça ne marche pas. On essaye toujours de faire en sorte que notre pays puisse aller de l'avant. Et ça, je pense que ça, c'est une force pour nous.
Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Voilà, c'est la fin de cette édition, mise en onde par Jean-Claude Siala. Merci à toute l'équipe rédactionnelle à travers toute la République, sous la coordination depuis Bukavu d'Emmanuel Elameji et sous la supervision de Pélé Kipelamondo. Merci également à vous pour nous avoir suivis.